Bonjour à tous et bienvenue à Vesoul pour notre 22e podcast en direct du FICA de Vesoul, c'est-à-dire le Festival International des Cinémas d'Asie. Je suis en compagnie de Jérémy. Salut Jérémy.
Bonsoir.
Troisième festival, je crois.
Tout à fait.
Et de Nicolas. Salut Nicolas.
Eh ben moi, c'est mon premier.
Alors, quelles sont tes premières impressions, on commence comme ça, sur l'arrivée à Vesoul et le premier jour de programmation, car nous sommes au deuxième jour donc, du festival.
Ça commence doucement.
Voilà. Ce que nous allons développer tout au long de cette première partie, qui va donc concerner les films d'ouverture et les présentations des sélections, des diverses sélections du festival, avant de développer et de parler des bons films dans les chapitres suivants que vous trouverez juste après. Car en effet, on ne peut pas dire que le film qui a été choisi pour ouvrir le festival, Full Circle, de Zhang Yan, nous est forcément convaincu. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce film a été choisi en ouverture et de quoi ça parle ?
Bien, en fait, il a été choisi dans le cadre d'un hommage à Wu Tianming, qui est un réalisateur et acteur chinois qui est décédé donc en mars 2014. Et donc, c'est le rôle principal, c'est le rôle principal de ce film, Full Circle, donc, de Zhang Yan, qui retrace l'histoire d'une maison de retraite et de ce groupe de personnes âgées qui vont tenter de monter un spectacle pour retrouver un sens à leur vie pour sortir de leur solitude. Ce film commençait plutôt bien. Cette introduction où on voit un peu les corps vieillis, la solitude qui se dessine un peu tout doucement comme ça, avec une petite musique, bon, on se dit peut-être que ça va être sympatoche, mais en fait passé cette introduction et plus le temps avance, on se retrouve avec un truc un peu nauséabond, un peu malhonnête aussi dans ces multiples manipulations à base de voilà, les violons sont là, la morale douteuse est là aussi. Il y a plein de choses qui sont vraiment dérangeantes dans ce film.
Quand tu parles de morale douteuse, hein, c'est quoi ?
Bah c'est on va essayer de parler doucement parce que c'est surtout
nous sommes en direct de l'hôtel à côté du cinéma de Vesoul et il est minuit et quart.
C'est ça.
Et la sécurité nous a déjà dit d'enregistrer moins fort car on profitera du podcast chez vous tranquillement, mais apparemment nos voisins de chambre préfèrent ne pas nous écouter actuellement.
Et donc la morale douteuse, j'y reviens, c'est que dans ce film, pendant les 105 minutes que dure le long métrage, on nous assène que ces pauvres gens sont abandonnés, que les enfants justement ont abandonné leurs parents. Après ça c'est très bien dans le fond, faut s'occuper de ses parents, etc., d'accord, mais il y a ce côté vraiment appuyé et les vraiment très très moralisateur qui fait que ça passe pas du tout.
C'est aussi effectivement cette morale sur le sens de la famille, le devoir familial qui est plus important que tout, ce qui semble aussi un peu hypocrite quand on voit la Chine actuelle, mais surtout moi je trouve que c'est nauséabond au niveau de la mise en scène et de ce que ça nous promet, c'est-à-dire quand tu parlais effectivement des corps décrépits, alors ça se résume à un personnage qui est incontinent à un moment, et donc voilà, c'est la tragédie du film qui lui fait prendre que sa vie est en partance complète, mais finalement ça va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est un petit détail, on nous dit on va expliquer frontalement ce qu'est la vieillesse, et finalement pas du tout, on part dans un feel-good movie complet, aussi surupeux que le sont 90% des comédies chinoises actuelles, et ça n'aborde jamais frontalement ce qui est vraiment la vieillesse, ce qui est vraiment Alzheimer, il y a un personnage qui a Alzheimer sur l'oubli, ce qui est vraiment la solitude, ce qui est vraiment effectivement le fait d'avoir son corps qui nous échappe, et finalement on reste dans une espèce de morale qui va idéaliser le réel et faire une carte postale de la vieillesse. On disons que c'est un peu l'inverse, qu'on nous explique de manière réaliste.
C'est ça, parce qu'on a, à chaque fois, on a dans cette bande-là de joyeux lurons, on les a tous, ils ont tous leurs spécificités, etc. Et c'est vrai que on les découvre sous un jour toujours très 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 positif et très voilà, c'est vraiment le feel good movie de base avec les situations, les petits gags sur leurs petits défauts. Pareil, voilà, il y a la vieille dame qui a Alzheimer et qui son truc, quoi, sa maladie est présentée comme un truc un peu romantique où ouais, finalement
c'est mignon,
et c'est mignon, et en plus c'est genre voilà, tu as Alzheimer mais bon, ça te permet de retrouver ton cœur d'enfant ou quelque chose comme ça, alors que bon, Alzheimer, on sait tous que c'est pas ça. Et là, vu comme c'est présenté, ça peut ravir plusieurs personnes qui ont un petit chamallow à la place du cœur et qui dirait ouais, c'est une vision très, voilà, c'est très mignon, c'est très etc.
Mais en même temps, c'est vrai, enfin, cet aspect là de dire ah oui, c'est vrai, mais c'est quand même feel good, hein.
c'est
surtout cette association,
et puis cette manière de filmer, cette manière aussi de filmer cette institution là, cette maison de retraite, ça m'a assez gêné. C'est que bon, c'est clair qu'en Chine, toutes les maisons de retraite et toutes les institutions ne doivent pas être, c'est pas l'hôpital psychiatrique de à la folie dans tous les cas.
En tout cas, c'est mieux filmé, quoi.
Mais le problème, c'est que cette maison de retraite là, en fait, on a l'impression que c'est un lieu fantasmé, quoi. Les fenêtres sont ouvertes. Les fenêtres sont toujours ouvertes. On a même l'impression que voilà, voilà, la scène où tous les pensionnaires fabriquent le lit à ce pauvre monsieur incontinent là. Il y a l'entraide entre les personnes, etc. Les infirmières qui sont toujours super bienveillantes, qui sont présentes. La directrice qui est là, qui leur dit non mais arrêtez, faites pas ci, faites pas ça. C'est une Chine, hein, encore une fois. On l'a déjà retrouvé dans plusieurs productions, des productions mainstream, des comédies comme ça. C'est une Chine un peu fantasmée. Et quand on voit toutes les autres productions, bah là on a vu un documentaire dont on parlera tout à l'heure sur la Chine rurale. Et c'est pas cette Chine-là qu'on voit dans Full Circle, quoi. C'est vraiment une Chine fantasmée. Et on a l'impression que voilà, c'est totalement malhonnête sur le fond, sur la forme. Et voilà, c'est vraiment pas du cynisme, on n'est pas cynique pour un sou, pour le coup, c'est ce qu'on voit, quoi, c'est assez choquant.
Nicolas, tu as ajouté quelque chose?
Bon, je vous rejoins totalement, c'est-à-dire que c'est de l'émotion forcée, quoi, c'est de la manipulation, ça use des stratagèmes de mise en scène assez manipulatoires, comme un personnage qui fait une blague et tu vois... un montage de gros plans sur des gens qui rient, t'as un personnage qui raconte son histoire triste, tu vois un montage de gros plans sur des gens qui pleurent, voilà, ça se résume à ça pendant presque tout le film. Donc c'est vrai que ça, quand t'es pas, voilà, t'as pas un petit chamallow à la place du cœur comme dit Jérémy, ça te laisse assez indifférent, quoi.
Il y a quand même, juste pour terminer dans tout ce bain de médiocrité, un simple élément qui est assez troublant dans le film, mais qui est plus dû au décès de Wu Tianming, qui est décédé en 2014 et qui meurt dans le film.
Spoiler.
Le film, oui, en même temps, les gens vont pas forcément le voir, à moins d'être fan du
réalisateur. En même temps, on sait assez tôt qu'il a un cancer en phase terminale.
Le personnage.
Mmh. Du coup, tu dis qu'à un moment, ça, comme c'est très émotionnel, pas forcément, le film a forcément joué là-dessus à un moment ou à un autre, donc...
Et c'est vrai qu'il y a une légère, voilà, le trouble vient de la légère mise en abîme que le film évoque comme ça, en rendant hommage au réalisateur et au cinéaste, sans trop non plus appuyer dessus.
Et d'ailleurs, en parlant d'appuyer justement sur le côté encore une fois manipulateur du film, c'est cette scène finale où les personnages rejouent la scène qu'on a vue il y a 2 minutes, mmh. Et il la rejoue en spectacle devant le portrait de l'homme qui vient de mourir, mais il le rejoue. Pourquoi en fait il le rejoue pour le public en fait finalement. Et ce qui est perçu comme poétique pour le réalisateur, il s'est dit ça va être l'instant pour finir le film, ça va être le truc super poétique, etc. Et non, ça fait juste encore une fois la scène tire l'arme et puis même ridicule parce que avec le coup de la photo qui s'anime, le petit sourire là, non c'est juste pas possible quoi.
C'est de l'autosatisfaction quoi.
Ouais et même pas, c'est du on vous a fait pleurer 2 minutes d'avant, mais là on va encore en rajouter une petite couche avant de partir quoi. Non c'est.
Alors si l'entrée avec cette ouverture est ratée, généralement à Vesoul le plat de résistance est tout à fait réussi vu qu'il se découpe en plusieurs menus. Il y a tout d'abord la sélection visage des cinémas d'Asie contemporain dont on reparlera dans le deuxième podcast, donc juste dessous, et dans lequel il y a des bons films puisque j'ai eu la chance de voir The Monk, le film birman dont on reparlera demain avec Nicolas. Et qui vaut déjà le coup d'œil. Là, c'est une sélection de cinéma, de films contemporains. Il y a une sélection thématique qui est cette année consacrée aux films qui tiennent en haleine. La sélection s'appelle « Tenir en haleine » et dont la plupart des choix sont assez judicieux et excellents et permettent d'insérer un peu de cinéma de genre dans la sélection. Je crois que sur les premières journées, on a pu voir 4-5 films à nous trois et on n'a pas été déçus. Je ne sais pas si vous voulez parler juste des films que vous avez pu voir, revoir sur grand écran en deux mots.
Voilà, moi, j'ai découvert, en fait, j'en ai profité pour découvrir le Kurosawa, c'était Chien enragé.
Du 49.
Donc, c'est un de ses premiers films post. Deuxième Guerre mondiale où il est revenu au cinéma parce que apparemment il avait été obligé un peu de faire des films de commande, de propagande avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc c'était l'une des premières fois où il revenait vraiment à son cinéma. Et du coup ben, c'est plutôt un bon film. C'est pas de tous les Kurosawa que j'ai vus, je les ai pas tous vus, mais c'est pas mon préféré parce que ça reste très classique dans l'histoire. Mais ça reprend un peu ce système qui est de partir d'un événement assez banal, c'est-à-dire le personnage principal, un jeune bleu, à qui on vole un pistolet, donc son arme de service dans un bus. Et donc à partir de cet événement qui est a priori banal, ça va entraîner d'autres événements de plus en plus, avec plus en plus d'ampleur, pour finir sur un mano à mano entre le flic, le bleu et le tueur du film, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est une magnifique scène dans des hautes herbes, très bien filmée d'ailleurs. Et ce qui est bizarre dans le film, son ambiance, c'est-à-dire qu'il y a très peu de son en fait, ça joue beaucoup sur le silence, il n'y a pas beaucoup de son ambiance même en extérieur, et donc ça donne une atmosphère assez bizarroïde, mais ça, finalement ça imprime son rythme au film, et donc ça donne quelque chose de très intéressant.
Jérémy, s'il y a un film de tenir en haleine que tu devais conseiller?
C'est Postman Blues que j'ai vu ce soir de Sabu. C'est un petit ovni assez référencé où Sabu s'amuse d'équiproquo qui fait voilà, il fait sa comédie, son film de yakuza, et voilà, on y voit un ersatz de Brigitte Lin, on y voit un sosie de Jean Reno dans Léon avec sa plante. On pense à Tarantino. Il y a plein de références et c'est super bien rythmé, c'est drôle. Voilà, j'ai été mort de rire pendant tout le film. Mais en même temps, la poésie, la poésie du film nous emporte aussi. On arrive à être ému.
Ça mélange plein d'idées. Ça fourmille d'idées en fait.
Voilà, c'est ça.
Ça mélange plein de genres.
C'est ça.
Et puis c'est jamais bordélique, c'est-à-dire que c'est toujours fluide, toujours très bien rythmé. Il y a toujours une idée qui relance l'intrigue vers une direction différente. On est sans arrêt surpris, ce qui est assez rare de nos jours.
Et puis c'est cette capacité aussi. Hein. Il y a des micro-histoires à chaque fois. Voilà. Et il nous sort totalement de. Ouais. Il arrive à nous sortir pendant quelques instants de la trame principale, voilà. Sans pour autant après, tout en douceur, nous ramener dedans.
Ouais.
Et c'est des allers-retours à chaque fois en permanence.
Et puis il a une maîtrise de ses personnages, parce qu'il y a énormément de personnages au final. Et on les retient tous finalement à la fin, hein, entre les yakuza, les flics, le tueur, le personnage principal qui est un postier. Il y a énormément de personnages et il arrive à gérer tous ces personnages et toutes ces petites histoires.
Et après, il arrive aussi, il part du générique assez réaliste où on voit le quotidien d'un postier.
Très répétitif.
Il se fait chier.
Comme le titre l'indique.
Donc voilà, c'est vraiment le truc. Et puis plus le film avance, plus ça part dans un surréalisme assez ouf.
Et le final est génial.
Et voilà.
Une espèce de poursuite en bicyclette à travers la ville de Minato. C'est là, Minato, que ça se passe.
Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà.
Et
donc j'avais pas vu Mi-Zombie et ça me donne envie de...
Ouais, Mi-Zombie, ça me donne envie c'est de pas me... tout à fait pareil.
Mais... Non, je sais que c'est, je sais très bien que c'est pas dans la même veine.
Il y a toujours quelque chose d'unique dans son cinéma. Et du coup, moi, j'ai vachement envie de... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de films, j'ai vu que deux films de lui, finalement, mais...
Mais c'est Marc, Marc Lelgouache qui pourra nous en parler.
On
connaît très bien Sabu, ouais.
Donc on en parle. Ça me donne envie de découvrir sa filmographie, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a, cette opportunité à Vesoul qui est quand même d'entre toutes les nouveautés, les films qui sont absolument invisibles ailleurs, il y a cette opportunité de pouvoir revoir ou redécouvrir des classiques de Kurosawa, de Sabu, c'est pas encore un classique, mais le film date de...
Mais il y gagnerait.
15 années. Et il y a pas mal de John Ito et de polar hongkongais, alors de... plus des années 2000 d'ailleurs, puisqu'il y a Infernal Affairs, Sparrow et La vie sans principe comme polar HK.
Puis il y a Filature qu'on a vu aujourd'hui aussi,
dont je voulais parler.
Qui est une petite protégée de John Ito. Et c'était aussi très bien d'ailleurs.
Ouais, qui n'a fait qu'un seul film d'ailleurs, Yoyoy. Et c'est vrai que c'est assez... il était sorti en France il y a quelques années, c'est... Ça fait presque un pansement au cœur de se dire à quel point ce cinéma-là et cette vision de Hong Kong qu'on retrouve d'ailleurs dans Sparrow a disparu dans le cinéma là-bas, quand on voit les derniers de John Ito, et aussi à quel point ce cinéma de toute façon a disparu des salles françaises, hein, puisqu'un film comme Filature ne sortirait
pas.
Sortirait peut-être en DVD, aujourd'hui. Mais en tout cas certainement pas en salle. Donc c'est quand même une bonne chose de pouvoir les voir sur grand écran. Mais Vesoul, c'est surtout la découverte de cinématographie absolument inconnue, de films qu'on peut voir nulle part ailleurs. Je pense notamment à la découverte du cinéma laotien que nous permet le festival cette année. Une découverte qui se fait en cinq films. C'est vrai qu'ils sont allés chercher un peu loin dans un pays où une industrie cinématographique n'existe pas, en fait. Il n'y a pas du tout d'industrie. Et nous avons vu le premier film aujourd'hui qui a été présenté de cette rétrospective assez complète par rapport à ce qui est disponible, mais donc fragmentaire si on peut considérer d'autres cinématographies, qui s'appelle Coup de feu dans la plaine des jarres, donc qui est un film laotien de 1983, un des deux films des années 80 qui continue à exister. Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire de ce film et nous dire ce que t'en as pensé?
Alors, donc le film, comme nous disait le réalisateur en introduction, en fait c'est une commande du ministère de je ne sais plus quoi, mais donc qui retraçait les batailles d'indépendance au Laos. Et donc au-delà de ça, au-delà du postulat de départ, on est un peu perdu dans cette histoire. On comprend pas trop ce qui se passe. Et donc le film date des années 80, mais pourtant on a cette impression d'un cinéma primitif. On n'est pas la grammaire elle est pas maîtrisée. Il y a pas de, on sent qu'il y a pas de moyens, etc. Mais oui, on n'est pas passionné par cette histoire, parce qu'on est un peu... C'est une succession de petites scénettes.
C'est vrai que la première chose, c'est le réalisateur qui est venu donc présenter son film qui a été perdu pendant 30 ans, que ces copies qui ont été. Enfin, une copie qui a été récupérée au Laos, filmée et projetée à Vesoul. C'est bon, vous avez dû comprendre 15-20% du film, mais l'important finalement sont les paysages, les acteurs qui sont non professionnels, les décors, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir. Un peu comme quand on regarde, je sais pas, je vais dire des films des années 10, français ou européens, enfin, cette impression d'avoir un testament visuel d'une époque dont on n'a pas d'image par ailleurs, tellement ces images sont rares. Mais c'est vrai que cinématographiquement parlant, le film offre un intérêt très, très limité. On est vraiment dans un cinéma de propagande très, très manichéen. En plus, sans avoir forcément les clés historiques pour comprendre la situation géopolitique de l'époque, donc qui nous est pas du tout présentée, qui effectivement en 85 quand c'était présenté au Laos, les gens avaient ces événements, c'était il y a 10 ans, donc tout le monde comprenait les tenants et les aboutissants. C'est pas forcément le cas maintenant, et surtout c'est pas forcément expliqué dans le film de manière très claire. Donc on débarque au milieu de fragments d'intrigues, de fragments de scènes, sans comprendre.
C'est vrai que nous on n'a pas les références, mais après on sent un peu qu'elles sont. Quoique on sent qu'un public averti peut comprendre certaines choses, par exemple le bébé, ou quand elle nomme le bébé. Je connais pas bien l'histoire, mais je pense que ce bébé aura son importance peut-être, ou je sais pas.
Après quelque chose qui est très bien, c'est que vu que ça utilise tous les stéréotypes du cinéma de propagande, on comprend tout de suite qui sont les gentils, qui sont les méchants. Mais en contre-plongée, de manière héroïsée, les méchants sont vraiment méchants, ils ont une vie dissipée,
un poids. Il y a quand même un peu de mise en scène, donc quand même un petit peu.
Quoi. En fait, c'est pas de la mise en scène, ce sont des stéréotypes de cinéma de propagande. Mais ils sont pas. Si le programme peut être. Enfin, a un intérêt historique, et généralement un intérêt esthétique quand il est, on va dire, transcendé par un vrai regard de cinéaste.
Einstein, il faisait du cinéma de propagande, et pourtant, esthétiquement, ça, c'est autre chose que ça, quoi.
Ouais, il faut qu'il y ait vraiment un style derrière pour pouvoir transcender les quelques stéréotypes qui généralement sont pas très bons, quoi. Donc là ça ressemble autant à du cinéma nord-coréen plus à du cinéma nord-coréen qu'à du Eisenstein.
Puis là le réalisateur nous dit vraiment que c'était une commande, un truc, c'est un film éducatif, comme il dit. On sent qu'il n'y a pas de volonté vraiment de proposer quelque chose, quoi, de proposer du cinéma, en fait, c'est vraiment un truc. Ouais.
Donc pour l'instant, on a ce document historique qui a vraiment un intérêt uniquement historique, et on reparlera un peu plus bas des autres films laotiens qu'on a pu voir, et notamment ce qu'est le cinéma laotien aujourd'hui, avec Chantelli, qui est présenté comme le premier film d'horreur donc laotien, qui est assez récent puisqu'il date de 2012. Hein. Dans les autres sections du FICA de Vesoul, il y a une section documentaire, et je crois qu'il y a un film que tu as bien aimé, Jérémy, qui était présenté aujourd'hui.
Oui, c'était Endless Road, de Gene Rackin, qui parle d'une bataille d'une mère de famille et de sa fille contre le gouvernement, un peu contre les puissants de la ville et les patrons de ces usines qui polluent leur eau, ce qui m'a plu dans ce documentaire, c'est ce côté Don Quichotte, un peu ils se battent contre des moulins à vent, la mère courage n'arrête pas, elle subit les violences, elle subit des brimades, elle est complètement reclue dans sa maison avec son mari, et pourtant elle n'arrête pas de se battre, même si elle sait que c'est perdu d'avance. Et je trouve ça admirable déjà d'un point de vue humain. Et en plus, ce réalisateur-là, je trouve qu'il a une vision, il apporte une mélancolie un peu aussi. J'aime bien quand sa façon de filmer un peu à la bougie. la vie de famille où c'est filmé un peu dans le noir, il y a que des ombres qui se dégagent, etc. Même esthétiquement, je trouve ça assez intéressant, assez il y a une personnalité quoi. Donc voilà, je trouve ça assez courageux de faire un film comme ça. J'ai envie de saluer l'effort.
Il y a un paradoxe d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans le public, il y a une question qui a été posée pour savoir si les scènes étaient jouées, les scènes de famille notamment, parce qu'on a des disputes de couple qui sont très intimes, si c'était mis en scène, joué, et le cinéaste a dit qu'il était vraiment tellement entré dans l'intimité de cette famille qu'en fait, il n'y avait plus de barrières pour eux. Donc ils
après,
sont
très... ce genre de discours-là, j'ai tendance à pas vraiment le croire souvent. Mais là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ces gens-là, comme le disait le réalisateur, ils sont tellement isolés, ils sont tellement seuls, ils ont plus d'amis, ils ont.
C'est vrai que c'est une question qui est difficile dans tous les documentaires, parce qu'en fait, je me suis aussi posé la question et je me suis dit, si je ne savais pas que c'était un documentaire, je me dirais que c'est mal joué en fait.
C'est ça.
Mais là, le fait que ce soit un documentaire, t'interdit moralement de remettre en question le jeu des acteurs.
Je me suis dit ça justement juste à cette scène là quoi, cette scène de dispute où le mari casse le et puis en plus il y a le plan après juste après sur le l'enfant qui écoute à la porte.
Ça c'est assez puisqu'on a une espèce de contrepoint de vue,
mais ça c'est le montage, ça c'est créé au montage. Parce que
il a bien précisé
qu'il y avait une équipe de 40 personnes qui est peut-être pas 40 personnes,
non,
mais
ça c'est un autre film.
Non, il y avait une équipe qui était là. Il n'était pas tout seul. Il y avait une grande équipe.
Oui, d'ailleurs il y a plusieurs.
Il y a souvent plusieurs angles. Et il vivait comme une famille. Et donc je veux bien le croire qu'après ça s'est fait au montage, etc. Après les documentaires, on sait qu'il y a une part de. Voilà, c'est le montage qui fait le discours aussi, donc voilà.
Moi, ça me pose pas de problème, j'aime bien le manipuler par les documentaires. Enfin, du moment que le film est bon,
c'est ça.
Je pense que ça justifie.
Mais là, ce film-là, il a une humanité, il dit quelque chose d'intéressant sur la Chine d'aujourd'hui, sur la corruption, sur le chemin que prend la Chine. Voilà. Et je trouve intéressant ce dernier plan où on voit les trains qui partent, on ne sait pas où ils partent, ils vont nulle part.
On voit surtout que la Chine suit exactement la même direction que les pays, les gros pays, quoi, en donnant la première économie mondiale, en utilisant les mêmes mécanismes finalement que les États-Unis.
Oui, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un parallèle qui est fait avec les États-Unis, en fait, comme cette famille attaque des usines de papier qui polluent la région, et on lui rétorque au téléphone, mais aux États-Unis, il y a des problèmes de pollution, il n'y a personne comme vous. Alors que des films, justement, à la Irine Brokovich, avec des gens qui font ce que fait cette famille, il y en a énormément, quoi. C'est assez amusant de voir ce parallélisme qui est fait. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette première journée, donc... Pour recadrer, nous sommes donc le mercredi 11 février, le premier jour du festival, c'est déjà tenu. Voilà, je vais vous poser une dernière question, quel est le film que vous attendez le plus demain? Comme ça on va voir si vos projections se sont avérées exactes. Nicolas, c'est quoi?
Alors moi, je n'ai toujours pas vu Sparrow de Junito. Et donc comme on
mais
a dit,
bien, c'est bien voilà, Sparrow de toute façon.
On en a dit du plus grand bien, mais je rêve de le voir depuis quelques années, et comme il repasse, ben, ça tombe bien. Donc j'en attends beaucoup.
Alors, Jérémy, quel est le film que tu attends pour demain?
Bah moi ça va être Margarita with the Straw.
J'en étais sûr.
Margarita with the Straw de Sean Alibos, qui, depuis qu'on a vu les petits extraits là, me fascine. J'ai l'impression d'avoir vu le trailer de Simple Jack avec Ben Stiller, la parodie dans Tropic Thunder. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir devant moi un film à Oscar américain où on joue l'handicapé mental pour avoir la statuette. Et ça me plaît bien, ça m'excite, ça, j'ai envie de le voir.
Non, mais il y a autre chose qui t'excite à vous quand...
Non, pas du tout.
Bon, bah, on sait, comme vous avez pris Margarita with the Straw, je l'attends pas trop, enfin, j'ai un peu peur justement, mais demain pourquoi pas le Don't Think I've Forgotten, le documentaire cambodgien sur le rock au Cambodge, qui peut être marrant. Donc on vous parle de tout ça dès demain, soir, sur le lien qui est juste en dessous. See you, Space Cowboys.
Salut.
Salut.